Germann et Martin Guibernier.
Bonjour tout le monde et bienvenue à notre balado à l'écoute des investisseurs pour le 9 avril 2025. Bonjour Martin.
Bonjour Sarah, bonjour tout le monde.
Donc, on a pris une pause de notre balado la semaine dernière et tout est arrivé la semaine dernière. Donc, quelles sont les nouvelles financières qui ont retenu ton attention depuis les dernières 2 semaines et surtout au courant du mois de mars?
Ouais, donc la chaîne a un peu débarqué là, depuis le début du mois d'avril sur les nouvelles des tarifs, entre autres. Donc, durant le mois de mars, le marché a terminé négatif. Donc, le TSX était en baisse de 1,5%, le S&P 500 en baisse de 5,6%, le Nasdaq en baisse de 8,1%. Les grands titres technologiques qu'on connaît, là, les Microsoft, Amazon, ainsi de suite, mènent la charge à la baisse. Là. Ils sont en majorité en baisse là, de 15, 20, 25, même certains 50 % dans le cas de Tesla. Depuis le début du mois d'avril, on est le 9 avril. Donc, en fait, le 8, là, les marchés ont fermé hier soir. Le TSX est en baisse de 9,7% en avril, 11,2% sur le S&P 500, 11,8% sur le Nasdaq. Donc, quand même des baisses assez prononcées. Le dollar canadien se maintient, on est à 70,4, donc il y a peut-être une certaine bonne nouvelle de ce côté-là, là. Notre dollar canadien tient bien. Les taux des obligations américaines se sont vraiment promenés là, durant le mois d'avril, on était à 4,3 le 26 mars, on est tombé à 3,8 il y a 2-3 jours, on est à 4,26. Honnêtement, ça semble peu, là, une fluctuation de 0,2-0,3% sur les taux d'intérêt des obligations de 10 ans, c'est énorme là, dans l'univers du marché obligataire. Donc, c'est vraiment non seulement le marché des actions est volatile, mais aussi le marché des obligations est très volatile, particulièrement du côté américain. Du côté canadien, c'est un petit peu plus stable là, du côté obligataire, mais on a quand même eu des taux qui ont remonté sur les longues échéances. Les courtes sont demeurées un petit peu plus bas. Donc, les nouvelles pour l'instant, on est au milieu de la tempête. Il y a beaucoup de volatilité présentement. On ne peut pas savoir exactement qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Personne ne peut prévoir précisément comment la bourse va se comporter. Mais présentement, là, c'est un marché un peu plus volatile, puis on va être là pour accompagner les clients.
Absolument. Puis aussi, pour les clients, en fin de semaine, j'ai lu plusieurs articles dans la presse. Je trouve que la presse fait un excellent travail pour nous aider, même ouais. Si peut-être c'est pas leur but. Mais surtout Nicolas Bérubé. Puis on va reprendre peut-être un peu de ces thématiques aujourd'hui, parce que c'est les mêmes questions qu'on se fait poser. Ouais. Donc, comme tu as dit, le marché a subi une correction assez importante dans les derniers jours. Nos clients sont inquiets et il y en a qui voient cette correction comme une opportunité et d'autres qui se demandent qu'est-ce qu'on devrait faire pour se protéger. Par contre, ce que nos clients ont en commun est qu'ils ont tous des questions. Afin de vous aider, car vous avez possiblement les mêmes questions que ceux qui ont appelé et vous n'avez pas eu le temps de communiquer avec nous, nous allons les adresser et je vais les poser à Martin aujourd'hui. Ouais. Donc, on va commencer avec la première question parce que c'est celui qu'on s'est fait le plus poser depuis le début de tout ça. Est-ce qu'on devrait se désinvestir des États-Unis?
Ben, la réponse, c'est non. La réponse courte, là, c'est non. Donc, on a le droit d'avoir des convictions personnelles profondes, puis ça, c'est correct. Là, okay? Donc, il peut y avoir, dans l'univers américain, on peut vraiment décider personnellement de détester une entreprise puis de dire « je ne veux pas investir dans cette entreprise-là ». Et ça, on le respecte, puis c'est tout à fait correct. Moi, le premier, je vais pas les nommer sur le podcast, mais il y en a 2-3 que je suis pas capable de blairer. Et puis, j'investirai pas ni mon argent, ni celle des clients dans ces entreprises-là. Ceci dit, le marché américain représente plus de 50 % de la capitalisation boursière mondiale. Donc, de toutes les opportunités de placement de la planète, il y en a 50 % qui sont aux États-Unis. Les meilleures entreprises au monde sont aux États-Unis, ou du moins la majorité. En comparaison, le Canada, c'est moins que 2 % de la capitalisation. Donc, 98 % des opportunités de placement ne sont pas au Canada et 50 % sont aux États-Unis. Il faut aussi garder en tête que la majorité des entreprises dans lesquelles on investit ou que les fonds communs qu'on utilise investissent, bien, c'est des entreprises mondiales dont le siège social est aux États-Unis. Prenons Microsoft, par exemple. Bien, 50 % du chiffre d'affaires de Microsoft provient de l'extérieur des États-Unis. Bien, ça veut dire qui ont des employés dans plein de pays, ils ont des milliers d'employés au Canada. Donc, on peut pas nécessairement juste dire, ben, moi, j'achète plus rien parce que, tu sais, parce que le siège social est aux États-Unis. Google, 53% du chiffre d'affaires vient de l'extérieur des États-Unis. Amazon, 32%. Costco, à ma surprise, là, pour le fun, 27% quand même vient de l'extérieur des États-Unis. Walmart, 32%. Donc, il faut vraiment garder en tête, on investit pour le long terme. On est dans une fenêtre quand même assez désagréable de volatilité, mais on ne peut pas complètement ignorer le meilleur marché au monde au niveau de l'innovation.
Puis des entreprises. Puis ça fait partie de ne pas avoir d'excès de conviction.
Ouais. Exact. On peut en mettre moins, mais il faut quand même y s'y exposer.
Absolument. Et une autre question qu'on a eue à plusieurs reprises, est-ce que je devrais acheter de l'or?
Ouais. C'est drôle qu'on nous pose la question, puis la question est arrivée. L'or était, je pense, à 3200. On est aujourd'hui à 3083. Donc, le prix de l'or a quand même baissé depuis. J'ai fait un petit peu un comparatif. Là. On a toujours l'impression, puis tu sais, il y a plusieurs commerciaux à la télé, là. C'est le monsieur riche sur son bateau là, qui dit que lui a acheté de l'or. Fait qu'il a l'air riche. Puis si on n'achète pas de l'or, on ne sera pas riche comme lui. La performance de l'or depuis les années 2000, ben, c'est 10,1 par année. Durant la décennie 2010, 2,3 par année. Donc ça, c'est assez mince hein, quand même. Donc si on a détenu l'or pendant 20 ans, là, on a fait 2,3 par année pendant les 10 premières années, puis 10 par année dans les 5 dernières, là, de 2020 à 2025. En comparaison, si on avait simplement acheté le S&P 500, ben, on a fait 13,6 durant la décennie 2010, puis on est quand même en hausse de 10 par année jusqu'à hier sur le S&P 500 depuis le 1er janvier 2020. Donc, la question se pose, est-ce que l'or est un meilleur placement que le S&P 500? Gardez en tête que l'or ne génère aucun revenu, alors que quand je détiens des actions d'entreprise, ben, au moins je reçois un dividende. Donc, si le prix de mes actions ne bouge pas pendant un certain temps, au moins je reçois un revenu provenant de dividendes. Non seulement l'or ne coûte pas, ne génère pas de revenus, mais il en coûte en plus parce qu'il faut soit acheter une belle grosse brique d'or qu'on met dans un coffret de sûreté, mais même si on achète un titre financier en bourse, comme le GLD là, sur la bourse de New York, c'est un fonds négocié en bourse qui reflète des onces d'or gardées en voûte, mais il y a quand même un frais de gestion parce que ces onces d'or-là doivent être gardées en voûte, puis il y a des frais associés. Et oui, c'est les détenteurs d'unités qui payent ces frais-là. Donc, conceptuellement, est-ce que ça peut faire du sens d'avoir 2-3% d'un portefeuille dans l'or? Oui. Est-ce que c'est nécessaire? Nous, on juge que c'est absolument pas nécessaire d'avoir ça dans le portefeuille. On n'en a pas en général. On trouve que ce sont des actifs qui ne génèrent pas qui ne créent pas de valeur à long terme. Puis juste pour vous donner une idée, durant la décennie des années 80, l'or a perdu 60% de sa valeur et durant la décennie des années 90, un autre 40% de perte de valeur. Fait que quand ça va mal, d'acheter surtout l'or au sommet historique, c'est peut-être pas la meilleure idée. Peut-être on s'en reparle quand personne voudra acheter de l'or puis le prix sera en baisse de 1000$, ça sera plus intéressant.
Parfait. Et est-ce qu'on vend tout et on attend que les choses se calment?
Ça, c'est la tentation de l'être humain quand on est inconfortable. Tu sais, si on met la main sur le poêle, puis le poêle est chaud, on a envie d'enlever notre main. Hein? C'est bien normal. Et là, on a l'impression, dans notre portefeuille de placement, d'avoir les deux mains sur le poêle, et c'est chaud, puis on veut retirer nos mains. Mais en réalité, on est en train de prendre une décision avec la peur. Il y a deux émotions qui sont des très mauvais conseillers, c'est la peur et l'avarice. Donc, on était dans l'avarice, on s'est fait poser il y a quelques années, je devrais-tu acheter des actions de cannabis, je devrais-tu acheter de la crypto, et là, bon, on n'en parle plus de ça, on en entend moins, là, c'est la peur qui prend la relève. Personne ne peut anticiper les mouvements boursiers. On le sait, quand ça vire de bord, ça peut virer assez rapidement. Et le danger de vendre des excellentes entreprises, on s'entend que les Microsoft, la Banque Royale puis le CN ne vont pas disparaître demain matin. Là. Ils vont continuer d'exister malgré la volatilité. Donc, si je liquide mon portefeuille pour m'améliorer mon niveau de confort dans l'optique de quoi? De racheter dans quelques semaines, dans quelques mois, plus bas, alors que présumément la situation va être pire, est-ce que je vais avoir le courage de le faire? Moi, j'en doute. Donc, ce qu'on dit, c'est facile de vendre. Encore faut-il avoir le courage de racheter après.
Puis, on a eu des bons exemples de ça parce qu'on a rencontré différents investisseurs récemment. Et il y en a qui ont dit, oui, oui, en 2020, j'ai vendu, mais j'ai jamais eu le courage de racheter. Ouais. Alors, ils ont manqué les meilleures journées de la bourse.
Exact. Donc, c'est vraiment pas la meilleure chose à faire. Là. On ferme l'ordinateur, on laisse son relevé dans son enveloppe, puis on va faire une bonne petite marche dehors, puis on arrête d'obséder sur les nouvelles puis sur le portefeuille. Ça va se replacer. Quand, on le sait pas, mais c'est sûr qu'à long terme, ça va se replacer.
Puis, est-ce que je devrais saisir l'occasion de cette baisse pour acheter à rabais? Et quand sera le bon moment?
Oui. Donc, ça, il y a deux questions intéressantes. On peut subir une correction de marché ou on peut profiter d'une correction de marché. Donc, profiter d'une correction de marché, ça veut dire que oui, on regarde la valeur de notre portefeuille baisser, mais on peut aussi dire, ben tu sais quoi, forcément, si les actions baissent dans mon portefeuille, ma répartition d'actifs, elle a changé. J'ai rien fait, mais mes actions ont baissé plus que les obligations. Donc, j'ai moins d'actions dans mon portefeuille que mon pourcentage cible. Je devrais donc rééquilibrer mon portefeuille et donc me forcer à racheter des actions à rabais. Donc, c'est pas de le faire d'un point de vue de market timing puis d'essayer d'anticiper les mouvements de marché. C'est de gérer sa répartition d'actifs. Si mon profil, c'est 60-40, puis en raison de la baisse du marché, j'ai plus 60 % d'actions, ça a baissé à 55, je devrais racheter 5 % d'actions. Comment et quand je le fais? Bien, on vient de subir une baisse là, du sommet au creux. Le sommet, là, c'était durant le mois de janvier, le S&P 500 jusqu'à hier, on est en baisse d'un petit peu plus de 20 %. Une correction moyenne dans une année, là, c'est environ 15 %. Ça, c'est la moyenne. Donc, il y en a de 10, il y en a de 20. À l'extérieur d'une récession, là, donc c'est une correction moyenne d'une quinzaine de %. Quand il y a une récession, la correction moyenne, c'est entre 27 et 32 %. Bien là, on a 20 % de la baisse de fait. Tu sais, présumément, il en reste 7-10 % à faire. La bonne pratique, si on a un peu de courage, c'est pas de dire « Parfait, là, j'y vais aujourd'hui, all-in, puis j'achète », mais allons-y progressivement. Donc, regardez votre allocation d'actifs. Si on a un petit peu de capital, on peut profiter de la baisse puis ajouter des titres de qualité. On peut aller vers un fonds ou un FNB, donc une bonne façon d'essayer d'attraper le rebond du marché boursier. Des fois, c'est simplement d'acheter le marché au complet, un petit FNB, puis on raffinera plus tard les choix.
Un fonds négocié
en bourse. Donc, ça peut être une bonne pratique, mais tu sais, nous, on est des adeptes de la gestion active. Donc, simplement de regarder votre portefeuille, vous avez des fonds qui ont baissé de 10, 15, 20 % et de rajouter à ces mêmes excellents fonds. C'est pas parce qu'ils viennent de baisser de 20 % que c'est plus des bons placements. Ils ont subi la même baisse que le marché. Et si on est réinvesti, ils vont rebondir.
Puis, avec ça, on peut vous aider. On est là pour ça, exactement, pour ces conseils-là. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin de regarder votre portefeuille et de le déterminer. Martin et moi, on pourra le faire. Mais c'est toujours selon votre profil de risque.
Ouais.
En réalité, pour les clients qui sont contents juste d'attendre que la tempête passe, c'est sûr, c'est la meilleure chose.
Exact.
Donc là, j'arrive à mon prochain question, puis ça le présente, la question. Qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Bien, donc tu l'as dit, là, je le répète des fois un peu à la blague, là, je l'ai entendu de quelqu'un, je ne l'ai pas inventé, là, mais un portefeuille de placement, c'est comme une barre de savon. Là. Plus on joue avec, plus il rapetisse. Donc, de ne rien faire, c'est généralement la meilleure chose à faire. C'est ce qu'entre autres, ce que Nicolas Bérubé dans la presse mentionne. Donc, on ne l'a pas inventé. C'est ce que tous les grands gestionnaires vont suggérer. Moi, je vais souvent... ça, c'est bien, là, tu sais, d'un point de vue tout à fait objectif, là, de rien faire, c'est tout à fait correct. Est-ce qu'on est capable de le faire? Donc, tu sais, chaque investisseur est différent. Puis, tu sais, ça va être quoi mon plus gros regret? Est-ce que si je vends 10 % de mon portefeuille puis ça rebondit dès le lendemain, bien, je suis heureux que ça rebondisse. Là. Oui, j'ai vendu un petit peu, mais au moins ça rebondit puis le reste qui est investi va rebondir aussi. Donc, je vais regretter d'avoir vendu, mais si je fais rien du tout puis ça baisse un autre 10, 15, 20 %, lequel des deux je vais regretter plus? Donc, des fois, si on fait juste réduire un peu la pondération en actions, pour me permettre de gagner du temps et de ne pas tout vendre parce que je ne suis pas capable de résister. Donc, pour les investisseurs là, qui sont vraiment, vraiment trop nerveux, ben, si on veut réduire un petit peu la pondération, c'est correct aussi. Là. Tu sais, il n'y a pas de recette magique uniforme. La recommandation formelle, c'est si vos objectifs de placement n'ont pas changé, si vos projets n'ont pas changé, vous ne devriez pas changer votre portefeuille en raison des événements économiques à court terme. Okay? Donc, ça, c'est la recommandation
formelle. Puis c'est un recul normal, le marché.
Absolument. Ouais. Et à chaque fois, là, depuis 25 ans qu'on fait ça, à toutes les fois, c'est « mais là, c'est différent, là, c'est pas pareil ». C'est jamais pareil, c'est jamais la même raison que ça fait que le marché baisse, mais ça finit toujours de la même façon quand même. Donc, il faut juste garder un peu de recul. Le biais de récence, donc, est un biais cognitif qui fait qu'on pense toujours que l'événement récent, il est pire que toutes les autres. Il est pas pire, il est juste plus récent que les autres, il est plus frais en notre mémoire et on a l'impression, donc, qu'il est pire.
J'ai appris des bons trucs des clients aussi qui me disent, ben moi, je réduis un peu mes dépenses. Donc, des fois, ça nous donne un sentiment de contrôle, de dire, ben moi, j'ai pris cette décision-là durant cette période-ci. C'est pas toujours nécessaire. Donc, moi, j'invite les gens à nous appeler. Si vous voulez acheter une voiture, il y a peut-être quelque chose dans votre portefeuille qui est plus stable, qu'on pourra vendre pour vos projets court terme. Et bien évidemment, si vous avez des projets court terme, mettre de l'argent de côté, nous en aviser, puis on va s'arranger.
Bien, puis pour nos clients retraités qui sont en décaissement, on est déjà préparé à ces éventualités-là. Donc, on n'est pas en train de le subir, puis là, tu sais, on est surpris de la chose. On a prévu dans les portefeuilles une portion en obligation, certains titres à plus court terme pour les décaissements de la prochaine année, 2 ans, 3 ans. Donc, oui, quand on regarde le relevé de portefeuille au complet, la valeur totale du portefeuille a baissé. Mais à l'intérieur du portefeuille, il y a des placements qui sont là pour vos décaissements de la prochaine année puis de l'année suivante. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter d'être obligé de vendre à perte. On ne vendra pas à perte. On a des placements qui sont là pour assurer les décaissements des besoins des prochains 12, 18, 24 prochains mois, puis le temps que le reste se replace à l'intérieur du portefeuille.
Puis il y a des clients qui disent, ben j'ai perdu 50 000 ou j'ai perdu 100 000, puis je leur dis, vous n'avez rien perdu, on n'a pas vendu.
Exact. Je regardais avec une cliente hier, elle est en baisse de 4% année à jour, mais tu sais, 17% l'année passée. Tu sais, t'as perdu un bout de ton profit de l'année passée, puis 17%, tu sais, c'est une excellente... Fait que ça, c'est un exemple d'une personne à qui je discutais. Mais des fois, de se reculer un peu, plutôt que de regarder, j'ai baissé par rapport au sommet du 31 janvier, regardez donc combien de rendement on a fait dans les 2-3 dernières années, puis en réalité, on vient de reperdre une portion du généreux profit qu'on a fait dans les dernières années.
Puis j'écoutais quelque chose avec Jean-René hier qui disait, quand on est investisseur, il faut s'attendre à des baisses de marché, et ça fait partie du fait qu'on fait des rendements qui sont plus hauts que les placements garantis.
Il n'y a rien de gratuit dans la vie, et le prix à payer pour obtenir un rendement plus élevé qu'un dépôt à terme, c'est de tolérer la volatilité. Et présentement, on est en train de payer la facture. Oui. C'est ça le prix à payer pour avoir des rendements plus élevés.
Mais je pense que le message le plus important, c'est que Martin, moi, Mathieu, Michel, on est là pour vous. Donc, si vous dormez pas, si vous êtes inquiet, si vous voulez... Il y a des clients qui voulaient juste discuter, juste parler. Ouais. On est là. Utilisez-nous. C'est notre rôle d'être présent pour vous, surtout dans une période comme celle-ci. Merci beaucoup, Martin. Et comme je vous dis, si vous avez d'autres besoins qui ne sont pas reliés à la situation actuelle concernant vos objectifs financiers personnels, appelez-nous. L'équipe est là pour vous. Merci pour votre écoute cette semaine et à la semaine prochaine.